Donc acte 2, verset 42. Verset 41-42. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. J'aimerais bien que ça nous arrive un jour, un dimanche matin ici, hein, enfin, un jour peut-être. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà ce qui se faisait dans l'Église primitive au départ. On va aller juste dans 1 Corinthiens 14, 26. Vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. Là, on se place dans l'assemblée qui se réunit. Puis, Paul de poser une question. Que faire donc, frères, pendant ces assemblées? Lorsque vous vous assemblez les uns et les autres, parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Alors, ce matin, j'aimerais parler du culte. Ben, on est en plein culte, donc on va parler du culte. Mais pas le culte comme on entend peut-être aujourd'hui. J'ai ajouté quelque chose selon les exigences de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, quand on va à droite et à gauche, le culte est légèrement détourné de ce que Dieu demande normalement. Aujourd'hui, quand on va à un concert, à ce qui paraît, on va au culte. On n'a rien à voir. Il y en a des églises comme ça où il n'y a plus que de la musique et c'est ce qu'ils appellent le culte. Où il y a ces cultes consommation, où en fait on vient, on écoute et on s'en va. On va voir ça un peu plus tard. Ou alors, il y a les cultes trop liturgiques. Ou alors là, on est carrément froid. Mais est-ce que c'est tout ça, le culte? Et c'est ce qu'on va se poser comme question ce matin. Quelqu'un disait, aujourd'hui, on ne dit plus qui est Dieu lors du culte, mais ce que nous éprouvons. Souvent, les gens sortent après un culte en disant, « Ah, j'ai ressenti ça. » Mais la vraie question, est-ce que c'est vraiment cette question qu'il faut se poser? Ou est-ce qu'il faut se demander, qui est Dieu? Est-ce que j'ai retenu qui est Dieu? Bien deux choses différentes. Il y a le sentiment, et puis il y a on dirait, le côté intellect. Est-ce que je sors d'un culte en me souvenant de qui est Dieu, ce qu'il veut pour moi, ce qu'il peut pour moi, etc. Ou est-ce que je ressors juste avec quelques sentiments qui finalement, trois heures après, vont s'étioler, et finalement je pars sans aucune base durant ma vie, et surtout mon quotidien. On va voir pourquoi. Alors moi, je vous pose la question un peu ce matin. Qu'est-ce que vous êtes venu faire au culte? Adorer? Oui, t'as déjà deux réponses, t'as plus le droit de réponse.
Entendre la parole, bon.
Entendre la parole, ouais. Partager. C'est une bonne question, hein. Mais qu'est-ce qu'on fait là ce matin? Pardon?
Se nourrir,
oui, j'aime le mot nourrir, ouais. J'ai entendu quelque chose, là. Recevoir, donner, partager, oui. Donc c'est une bonne question de temps en temps se poser la question, pourquoi je viens le dimanche matin? Est-ce que c'est par habitude? Je viens en culte, qu'est-ce que c'est que le culte finalement, en réalité, hein? Est-ce que j'aimerais faire ce matin avec vous, justement, de voir ce qu'est le culte, hein? Et puis, à la question que j'ai posée, qu'est-ce que vous cherchez dans le culte ce matin? On peut aussi poser une autre question, comment va votre relation avec Dieu? Je ne veux pas savoir. Ça, c'est dans votre cœur, hein? À moins que vous voulez vraiment m'en parler, mais ça sera après. Parce que les deux sont extrêmement liés, et vous allez voir pourquoi. Souvent, j'entends dire « Ah, le culte est fade, le culte est triste », et souvent, cette personne n'a aucune relation avec Dieu dans la semaine. Et c'est bien pour ça qu'on ressent certaines choses, mais en fait, on ressent simplement ce que je suis à l'intérieur, bien souvent. Donc j'aimerais qu'on apprenne à définir ce qu'est la qualité du culte ce matin, et il y a trois points qu'on va voir, hein. D'abord, savoir qu'est-ce que c'est que le culte, on verra ensuite les objectifs du culte, et puis le culte en pratique, mais très rapidement. Alors, qu'est-ce que le culte? Alors, qui est l'initiateur du culte? C'est qui a décidé un jour qu'on se réunisse et qu'on célèbre ensemble? C'est le pasteur? C'est Dieu lui-même. Donc, c'est lui qui est l'initiateur du culte. C'est lui qui a décidé à un moment que les chrétiens vont s'assembler. Et ça a commencé dès le début. Alors, ce n'était pas vraiment un culte, mais on se souvient Caïn et Abel qui offraient déjà un sacrifice. Il y a une forme de culte déjà là. Et puis Caïn, ben, quand Dieu lui a dit qu'il n'appréciait pas cette manière de faire, qu'il voudrait qu'il fasse autrement, Caïn, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit « Oui, je vais t'obéir, c'est ça ?» Ah non, il allait tuer son frère. Sympa. Ben, il y a une leçon là aussi aujourd'hui. Beaucoup de gens essaient de faire des cultes ou montent des églises, mais ne cherchent pas forcément à savoir ce que dit la Bible. Simplement, basé sur leurs sentiments, sur ce qu'ils éprouvent. Et moi, j'aimerais qu'on revienne d'abord à celui qui a décidé le culte et en plus qui a donné sa parole. Par exemple, dans l'Ancien Testament, les Hébreux avaient aussi des manières de célébrer Dieu. On appelle ça les lois cérémonielles. Il y avait tout un processus, il y avait tout un tas de gens qui étaient là mis en place. Hein. C'était peut-être un peu liturgique. Mais Dieu avait décidé que ces gens se réuniraient pour adorer son nom, pour adorer Dieu. Et aujourd'hui, il a décidé, comme on l'a vu dans Actes aussi, que l'Église se réunit pour louer Dieu. Donc, quand je pense culte, qu'est-ce que le culte? Je me dis d'abord une chose, c'est Dieu qui l'a décidé. Et si Dieu l'a décidé, ça sous-entend beaucoup de choses. Ça sous-entend qu'il est l'initiateur, mais aussi le gestionnaire de ce culte. C'est lui qui dit les directives, c'est lui qui dit les principes. Hein. Les principes, on ne va pas les trouver dans le monde, on ne va pas les trouver en copiant le monde, on va les trouver dans la Bible. Si je veux savoir qu'est-ce que le culte, d'abord je sais qui l'a mis en place, et surtout je sais ce qu'il veut, puisque la Bible nous en parle. Pas en entier, mais quand même donne des principes. Ce que Dieu veut dans nos cultes, ben, d'abord c'est qu'on se souvienne qu'il doit avoir le même caractère que Dieu. Dieu est comment ? Amour. Donc on doit s'aimer. Enfin, j'espère que vous aimez, quoi. On ne se connaît peut-être pas tous encore. Dieu est comment encore ? Grand. J'espère que notre culte sera grand ce matin, je ne sais pas.
Quoi ?
Il est saint. Ah. Donc on ne vient pas au culte avec tous nos péchés, etc. On peut demander pardon au Seigneur avant. Ou au moins prendre conscience de cela. J'ai entendu autre chose.
Il est bon.
Il est bon. Je ne sais pas si on peut dire que le culte est bon. Mais on sera bons les uns vers les autres. Ouais.
Il s'est corrigé.
Corrigé. Ah, j'espère que je ne vais pas vous corriger ce matin, mais je crois que la parole... De toute façon, vous savez, quand on prépare un message, c'est nous-mêmes qui commençons à nous reprendre des claques. Hein, et après, bon, on ne veut pas donner des claques, évidemment. Mais oui, corriger, améliorer, perfectionner. Oui, quoi encore ? Comment est Dieu ?
Miséricordieux.
Et j'espère que si on a eu quelques disputes les uns vis-à-vis des autres, on sera plein de miséricorde aussi, les uns vis-à-vis des autres. Vous voyez donc ? Quand on essaie de penser à Dieu, on voit là plein d'attributs, mais ces attributs, finalement, nous voulons aussi les vivre d'une certaine manière. Pas comme Dieu, parce qu'on n'est pas aussi parfait. Mais notre culte doit être plein d'amour, il doit être saint, il doit être ordonné aussi, parce qu'on voit que Dieu est un Dieu d'ordre. Donc ce n'est pas le bazar, ça ne veut pas dire que ça doit être coincé, mais ce n'est pas le bazar non plus pendant le culte. Et là, il y a quelques principes. Hein. Ce que Dieu demande dans nos cultes, c'est de venir uniquement pour Dieu. J'espère que vous n'êtes pas venu pour moi ce matin. Enfin, moi, je ne suis pas venu pour vous. Même si je vous accueille, on est bien d'accord. Mais si on est venu ce matin, c'est pour Dieu et pour Jésus-Christ uniquement. Le culte est totalement centré sur Dieu, pas sur l'homme ou pas sur nos sentiments, tout ce qu'on peut éprouver. On vient ici parce qu'on vient pour Dieu et Dieu uniquement. Quand je viens au culte, et j'espère qu'on l'a, on a conscience de Dieu. On a conscience que Dieu est vivant. Alors, on a conscience durant la semaine, mais je pense que le culte, c'est un moment particulier où on va plus se concentrer et se réjouir de connaître Dieu, de découvrir encore un peu plus des facettes de sa personne. En même temps, je viens avec le respect pour Dieu. Enfin, j'espère. Je viens parce que je veux respecter Dieu. Vous savez, Dieu me fait l'honneur de m'accueillir. Est-ce qu'on mérite d'être accueilli par Dieu, honnêtement? Si on regarde un peu notre passé, notre vie de pécheur, qui mérite personne, je crois. Hein. Mais Dieu me fait l'honneur de m'accueillir ce matin. Alors, moi, j'étais à la porte, mais c'est Dieu qui nous accueille. C'est lui qui nous fait cet honneur. Nous sommes des petits hommes, hein, comme j'aime à dire, tout petits, et Dieu est majestueux, souverain, grand, et lui se plaît à nous accueillir ce matin. C'est pas extraordinaire ? Parce que je sais que souvent on va au culte dimanche matin avec les yeux un peu ridés, il faut courir, il faut se dépêcher, on arrive, on se pose là, et on écoute le chant, et puis on chante et on repart, et c'est fini. On a loupé quelque chose, je pense. Dieu m'accueille ce matin. Profond qu'on y pense, non ? Et quand il m'accueille, ça change tout dans le culte. Alors déjà, j'ai envie d'être à l'heure, parce que je sais que Dieu est là et m'attend. J'ai envie de l'adorer, de le célébrer, parce qu'il est là. Et normalement, je repartirai différent. Enfin, j'espère qu'il y aura un petit progrès dans ma vie spirituelle, parce que j'ai centré mon regard sur Dieu, pas sur la musique, pas sur les hommes, mais j'ai centré mon regard sur Dieu. C'est ça qui change tout dans une vie, normalement. Vous savez, quand vous êtes invité chez quelqu'un, vous repartez en vous disant « Ah, j'ai ressenti un feeling, j'ai ressenti quelque chose d'extraordinaire. » Alors dites « le repas était bon ou pas bon, ça dépend des fois. » Ou alors vous allez dire « Ah, c'est des gens que je suis content de mieux connaître. » Alors c'est vrai que c'est lié à nos sentiments, mais moi quand je suis invité, je me réjouis d'être avec une personne. Alors des fois ça se passe bien, des fois ben, soit il y a la tristesse ou je ne sais pas. Mais ce n'est pas ce que je ressens, le plus important c'est d'avoir découvert un peu plus la personne. Et ça c'est ce qu'on appelle la communion fraternelle aussi. C'est exactement la même chose avec Dieu. Il m'invite pour que je le découvre, pour que j'apprenne à le connaître. Alors, s'il y a des émotions qui doivent venir, c'est après cela. Parce que j'ai découvert un grand Dieu qui a fait des choses extraordinaires pour moi. Oui, là je vais éprouver quelque chose, mais ce n'est pas l'inverse. C'est parce que j'ai rencontré Dieu que je peux éprouver quelque chose. Et puis, comme on a lu dans Acte 2, il y a un fondement dans le culte qu'on oublie de plus en plus. Quatre choses, on va en parler longtemps, mais ce n'est pas le but ce matin. La première chose, et vous l'avez dit, c'est se nourrir, l'enseignement. Dieu a décidé que dans le culte, il y a une partie où on apprenne l'enseignement. À l'époque des apôtres, mais nous allons partager la parole de Dieu qui est la Bible aujourd'hui. Et chaque dimanche, nous sommes appelés à nous enseigner. Quand on fait un concert de musique pendant 3 heures, est-ce qu'on peut forcément dire en sortant qu'on est enseigné ? Alors, c'était sympa, j'ai rien contre le concert, vous allez croire que j'ai rien contre. Mais je ne peux pas dire que c'est un enseignement. Un enseignement, c'est ce qu'on est en train de faire. Il faut ouvrir la Bible, s'intéresser, l'étudier. Ce n'est pas que le dimanche, forcément. Normalement, on devrait le faire tous les jours. On devrait prendre un temps avec Dieu pour lire la Bible. Et le dimanche, on va expliquer un peu davantage. La deuxième chose, c'est la communion fraternelle, c'est le vivre ensemble. Le vivre ensemble, ça signifie souvent se pardonner, ça signifie s'aimer, cette vie de sainteté dont on parlait tout à l'heure. Mais aujourd'hui, de plus en plus, j'ai l'impression que les gens se disent « je vais au culte sur l'ordinateur ». Et moi, quand je suis devant mon ordinateur, j'ai beau lui parler, il ne me répond pas. Hein. Et alors, avoir une communion fraternelle avec mon ordinateur, voilà, c'est la chose qui me fait, c'est tout. Hein. Alors, ce n'est pas parce que j'ai mis des études sur le site internet de l'Église que je peux vous voir. Hein. Je risque gros, mais bon. Mais la communion fraternelle, c'est d'être ensemble, c'est de vivre ensemble. Je ne dis pas que de temps en temps, il ne faut pas y aller, ce n'est pas ça le problème. Mais si je suis constamment chez moi seulement, est-ce que je peux franchement partager une communion fraternelle avec les autres ? C'est impossible, c'est impossible. Puis c'est un temps de prière aussi, où on va parler à Dieu, où on va exprimer nos louanges, mais aussi nos requêtes, nos besoins, etc. J'ai la chance de pouvoir parler à Dieu. Et en plus, j'ai la chance qu'il m'entend. Parce que souvent, on parle à des gens de nos problèmes, etc. Ils disent oui, on oublie. Mais Dieu, lui, entend mes prières, a déjà peut-être répondu à ces prières. Il sait tout. Il sait absolument tout. Donc, il répond favorablement ou non, on l'a vu tout à l'heure, mais il répondra selon sa volonté. Et puis, il parle de la scène aussi. Alors, nous, on le fait une fois par mois. Il y en a qui le font une fois toutes les semaines. Ça, c'est l'Église qui décide. Mais c'est l'idée de se souvenir de la grâce qui nous a été faite. J'étais pécheur. À cause de mon péché, j'ai été condamné éternellement à être séparé de Dieu. Et dans cet état-là, je ne pouvais pas faire grand-chose. Mais heureusement que Jésus-Christ est venu, est descendu du ciel, a accepté de mourir sur cette croix à ma place. Et moi, quand j'accepte que je suis pécheur et que je remercie Dieu pour ce sacrifice qu'il a fait à ma place, alors à ce moment-là, j'ai goûté à cette grâce de Dieu. Et la scène nous rappelle aussi que Jésus est vivant. Alors qu'est-ce que ça vous fait, vous, quand vous dites « tiens, Jésus est vivant » ? Ouais, c'est bien. Qu'est-ce que ça signifie au quotidien ? Jésus est vivant. Ouais.
Il est avec nous.
Par exemple ? S'il est avec nous, qu'est-ce qu'il peut alors ?
On a une relation avec nous.
Il y a une relation qui existe. Hein. Dieu, ce n'est pas le dimanche matin. Hein. Si relation, ça veut dire que je peux
communiquer,
parler. Hein, ce n'est pas comme le pasteur, 3h du matin, téléphoner, je ne vous répondrai pas. Mais Dieu, vous pouvez lui parler, il répondra. Qu'est-ce que ça veut dire encore au quotidien ? Dieu est vivant, Jésus est vivant.
Il
écoute nos prières.
On
n'est jamais seul.
On peut se confier.
On peut se confier, ouais. C'est pas génial, un service 24 heures sur 24 comme ça ? Quand tout va bien, vous pouvez parler, communiquer avec Dieu, vous réjouir de le connaître. Quand tout va mal, bah, généralement, on s'en sert pas. Curieusement.
Il est aussi notre créateur.
Il est aussi notre créateur. Alors, de temps en temps, on peut se regarder devant le miroir en disant « Quelle merveilleuse créature je suis !» D'accord. Tout le monde n'approuve pas, j'ai l'impression.
Il est notre sauveur aussi.
Il est notre sauveur. Ça veut dire que Jésus est vivant, ça veut dire que j'ai cette relation avec Dieu, mais cette relation, elle est multifacette. C'est formidable de pouvoir partir le matin au travail en disant « Jésus est vivant ». Et si j'ai un problème à mon travail, parce que moi je l'ai fait autrefois, j'avais des fois des difficultés, et puis en priant juste dans un coin ou aux toilettes, bah Dieu m'aidait, d'une manière ou d'une autre. C'est formidable, non ? D'avoir un Dieu qui est vivant. Ça offre un grand réconfort. Donc qu'est-ce que le culte ? Ben, c'est ce qu'on vient de voir. D'abord, célébrer un culte, c'est faire ce que Dieu désire, pas ce que je désire. C'est ce que Dieu désire. Hein ? Parce qu'en fait, il en est l'unique objet. Je viens au culte pour aller célébrer uniquement Jésus-Christ, Dieu. Quand on s'intéresse un peu aux objectifs du culte, plusieurs buts, hein. D'abord comprenant une erreur. Le culte ne nous change pas. Qu'est-ce qu'il raconte ? Le culte ne me change pas. On ne vient pas au culte pour avoir des frissons ou pour, je sais pas, ressentir un plus de paix, ou etc. Parce que souvent, c'est le cas. On croit que parce que je vais au culte, il va se passer quelque chose de nouveau dans ma vie. Et alors, quand il ne se passe rien, on se dit, bah, il était nul, le culte. Quelqu'un écrivait, si vous adorez Dieu parce que c'est payant, vous obtenez quelque chose. Ce ne sera pas payant, vous serez déçu. Quelqu'un d'autre écrivait, mon but, c'est Dieu lui-même, pas la joie ou la paix, pas même la bénédiction, mais lui-même, mon Dieu, uniquement mon Dieu. C'est ça l'objectif du culte. On vient pour Dieu uniquement, pour le célébrer. Et c'est vrai que quand je viens uniquement pour Dieu, quand je découvre Dieu, quand je vois sa grâce, son amour pour moi, c'est là où je commence à avoir des émotions, on pourrait dire entre guillemets, où j'ai la paix de Dieu qui s'installe en moi, où je me réjouis de connaître ce Dieu. Et je repars du culte, là, oui, avec une vraie paix dans mon cœur. Mais pas cette paix frisson un peu rapide que le monde vous balance souvent et qui est très vite... Vous savez, quelqu'un qui a la paix en Dieu, cette paix, elle dure toute la semaine, normalement. Hein. Ce n'est pas juste le dimanche matin ou pendant 2 heures après le culte. Un autre but, c'est de fortifier les chrétiens. On l'a dit par la communion fraternelle, l'enseignement. En fait, Dieu voulait qu'en nous réunissant, ben, notre foi puisse se muscler davantage. Vous avez une grande foi ? Des fois, je me dis, si j'étais devant la mer Rouge, là, que Dieu me dit, lève ton bâton, là, comme Moïse, hein, avec le pharaon qui était derrière, qui allait m'attaquer, tout le peuple qui râle, est-ce qu'on a une foi comme ça ?
Il la donne, la foi.
Pardon ?
Il la donne, la foi.
Oui, il donne, mais il était quand même devant la mer, hein. Il a dû lever le bâton en espérant que Dieu ouvre quand même cette mer. Hein. Alors, on n'est pas des Moïse parce qu'on n'est pas appelé à faire la même chose, mais le Seigneur veut aussi que notre foi se muscle, grandisse. Hein. On dit souvent, on a la foi en Dieu. Quand tout va bien, je crois que Dieu est vivant, je l'aime, etc. Et dès qu'il y a une épreuve, qu'est-ce que tu me fais ? Pourquoi toujours moi ? Etc. Finalement, notre foi, dans ce monde, elle sera amollie. La foi, souvent, elle se développe dans l'épreuve et dans la difficulté. Mais avec le culte, avec les partages qu'on peut avoir et avec... La lecture de la Bible, cette fois, elle peut grandir. Hein. Ma foi ressemble tout simplement à ma fréquentation de l'Église et de la parole de Dieu en même temps. Il n'y a pas que l'Église là-dedans, il y a aussi ma relation avec Dieu pendant la semaine. Si je veux évaluer ma foi, ben, combien de fois je viens à l'Église, peut-être, et combien de fois je prends du temps avec Dieu dans mon culte personnel, tout simplement, et je verrai à peu près où en est ma foi. Si quelqu'un a la foi, il a besoin de se nourrir. Il a besoin de cette communion fraternelle, il a besoin d'être enseigné, il a besoin d'apprendre et de grandir. Un autre but, c'est nous préparer au service. Le culte nous rappelle que nous avons un berger et un chef. C'est celui qu'on honore. Et ce chef, ce berger, veut nous donner ses instructions chaque semaine. Alors, on les reçoit au fur et à mesure dans la Bible, dans cette lecture régulière, mais parfois, Dieu nous reprend, nous parle plus précisément peut-être pendant le culte ou pendant l'étude biblique ou au travers d'un témoignage des uns et des autres. C'est pour ça que j'aime bien entendre des témoignages ou peut-être quelqu'un qui a une lecture à partager tout simplement. Dieu veut me donner ses instructions ou peut-être simplement me parler parce que j'ai besoin à ce moment-là de cela. Et bien souvent, on s'en prive, hélas. Et après, on dit, mais il est où Dieu ? Ben, c'est moi souvent qui n'ai pas de relation avec lui. Lui, il est toujours à côté de moi, hein. Il l'a promis, toujours à côté de moi. C'est moi souvent qui m'esquive. Le culte nous rappelle aussi que nous sommes soumis à notre chef, normalement. Christ est mon chef. Ouais. On est d'accord, Christ est mon chef.
Amen.
Amen. Mais quand mon chef me dit quelque chose, généralement, au travail, qu'est-ce que je fais ? Je n'ai pas envie. Ah oui ? Pardon ? On est censé lui obéir. Bon, on obéit souvent au travail en grommelant un petit peu intérieurement sans qu'il le voie. Mais si je dis que Christ est mon chef, ça veut dire qu'il est là, des instructions pour moi et que je dois aussi lui obéir, le servir. Chacun a un don dans l'Église, selon la parole de Dieu, et un service pour lui. Mais si je ne sais pas ce qu'il veut, si je ne suis pas soumis à mon chef, alors je ne fais pas ce que Dieu veut, tout simplement. Puis le but du culte, c'est adorer Dieu, on l'a dit. Alors souvent, on confond beaucoup l'adoration avec des sentiments, avec quelque chose que je vais éprouver. Alors il y en a qui sont presque en transe quand ils adorent Dieu. Ah, j'adore Dieu. Et on croit que c'est ça, adorer Dieu. C'est une très mauvaise définition. Hein. Adorer, vous ne ressentez rien quand vous adorez Dieu. Enfin, je m'entends. Je ne vais pas exagérer non plus. L'adoration, c'est une obéissance aux exigences de Dieu. Quand j'obéis à Dieu, que je sois à l'église, que je sois au travail, dans ma famille, je suis en train d'adorer Dieu. Je lui obéis. Comment est-ce que je pourrais adorer Dieu en chantant, par exemple, ou en essayant d'éprouver des sentiments, tout en ayant un tas de péchés derrière? Croyez que Dieu agrée cette adoration, pleine d'expression, etc.? Je ne pense pas. On peut adorer Dieu le matin en partant au boulot. Hein, au lieu de râler en disant encore, il faut que j'aille bosser et faire mon pain, ben, je peux peut-être arrêter de penser à ça et je vais dire, tiens, je vais adorer Dieu par mon obéissance, le fait de le connaître, d'apprendre à mieux le connaître. Hein. Finalement, adorer Dieu, c'est ma consécration quotidienne à Dieu. C'est ma manière d'être vis-à-vis de lui. C'est ça, la véritable adoration. Hein. Et on confond bien souvent beaucoup de choses là-dedans. Quelqu'un disait, l'adoration est intelligente aussi bien qu'émotive. Le monde, enfin l'Église aujourd'hui cherche beaucoup l'émotion, mais oublie l'intellect. Adorer Dieu, c'est se concentrer sur Dieu, on a dit tout à l'heure, c'est prendre le temps de réfléchir qui est Dieu, ce qu'il peut pour moi, etc. Vous quand je vous ai demandé qu'est-ce que Dieu peut pour moi, il faut du temps pour réfléchir. Ça veut dire que notre intellect joue aussi. Donc adorer Dieu, c'est ma façon de vivre. Alors oui, on vient le dimanche matin, moi je parlerai d'adoration à partir du moment qu'on fera ça un jour peut-être. Quand on adore Dieu, c'est quand simplement on se concentre sur la personne de Dieu. Il ne faut pas confondre avec intercession. L'intercession, c'est demander à Dieu. D'accord ? On demande des choses à Dieu. La louange, c'est chanter Dieu. Et puis il y a l'action de grâce aussi. C'est le remercier pour ce que j'ai reçu de Dieu. Mais adorer, c'est se concentrer sur la personne de Dieu. Dire merci parce que Dieu est grand, parce que Dieu peut tout, etc. etc. Et on oublie d'adorer, bien souvent. On aime demander. Quand on prie, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai besoin. Et Dieu, des fois, il dit, coucou, je suis là. Excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est bien souvent ça. Dieu est une espèce de une machine où on met des sous et on récolte la nourriture et puis on s'en va. Mais la machine, de temps en temps, enfin, excusez-moi de comparer comme ça, mais aimerait de temps en temps un peu de reconnaissance, qu'on reconnaisse simplement qu'elle est là déjà et qu'elle peut des choses pour moi. C'est ça, adorer. Le secret d'un bon culte, il y a un petit secret, vous allez voir, très bien. En fait, le secret d'un bon culte, ça dépend de moi. Pas du pasteur, pas du président, pas de mon voisin. Ça dépend de... moi. Ça dépend de moi. Quelqu'un disait, le secret du culte public est la piété privée. Je répète, le secret du culte public est la piété privée. Le culte est frais et vivant lorsque vient de la part d'hommes qui adorent dans leur vie privée. J'aurais dit, le culte est frais et vivant lorsqu'il vient de la part de gens ou d'hommes qui adorent dans leur vie privée. Si dans la semaine, j'ai une vraie relation avec Dieu, vivante, je vais venir au culte d'une autre manière que si j'ai aucune relation avec Dieu et que j'espère que cette relation va s'initier pendant le culte. Et alors je prie pour que le président soit super bon et que le pasteur ait une super prédication et souvent je repars, ouais, c'est pas terrible. Pourquoi ? Parce qu'au fond de moi, il n'y a aucune relation avec Dieu. Et comment vous voulez qu'on l'installe chez vous ? Je n'ai pas le droit. Si je pouvais le faire, si je pouvais rentrer dans le cœur de tous les gens, je rentrerais déjà dans le mien, déjà, au premier, et pouvoir installer là une vraie relation avec Dieu. Mais c'est mon rêve. Ça ne marche pas comme ça. Chacun est responsable de lui-même. Et donc le culte commence dans ma relation avec Dieu. Lundi, demain, vous allez partir. Vous commencez déjà le culte de dimanche prochain. Dans votre relation avec Dieu. Et si vous avez pris le temps pendant toute la semaine de lire cette parole comme vous pouvez, de prier, d'adorer Dieu, parce qu'on peut le faire aussi tout seul, ben, à mon avis, vous allez venir d'une autre manière dimanche prochain. Êtes heureux. Ah, c'était une bonne relation durant la semaine avec Dieu, là j'ai envie de la partager maintenant avec les gens. Et souvent c'est, on va au culte. Comme des zombies, bien souvent. Donc tout dépend de ma consécration. Le culte ressemblera à ma relation avec Dieu. Puis en même temps, quand on se pose la question du culte, on pourrait dire qu'un culte, moi je dirais que se veut créatif aussi. Parce que, je ne sais pas si vous remarquez, alors moi ça fait 21 ans que je vais régulièrement au culte, et quasiment tous les dimanches, alors maintenant que je suis pasteur, j'ai plus le choix. Même quand je vais en vacances, on m'invite à prêcher ailleurs. Bon. Mais c'est vrai qu'au bout de 21 ans, présidence, message, chant. Président, message, chant. Ça en fait des semaines et des semaines. On oublie que nous avons été faits à l'image de Dieu. Et Dieu est
éternel.
Oui, non seulement, quand il a fait le monde et la terre, il est créateur. C'est pas quand on regarde la nature, quand on regarde ce monde, c'est varié, non ? Il n'a pas fait le même arbre pour tout le monde. Il y a des milliers d'arbres, il y a des milliers d'animaux qu'on ne connaît même pas encore. Et si je suis fait à l'image de Dieu, il nous a donné aussi des dons et peut-être de la créativité. Hein. Est-ce que nos cultes ne devraient pas un peu varier, sans exagérer, hein, je ne veux pas réformer le culte, mais est-ce qu'on ne pourrait pas, je ne sais pas, changer des fois un peu les habitudes, ajouter quelque chose, pas forcément le président. Hein. J'aime le culte participatif, on en parlait tout à l'heure, mais chacun d'entre nous, on a peut-être vécu quelque chose dans la semaine de fort avec Dieu, et pourquoi pas le partager un dimanche matin. Alors, peut-être on est timide, hein, alors pourquoi pas l'écrire dans ce cas-là, et puis le transmettre au président qui le lira. Peut-être quelqu'un a un chant là qu'il a... toute la semaine, il revenait. Ben, pourquoi pas le partager le dimanche matin? Mais le chanter devant, si vous êtes courageux, pourquoi pas? Je vous accompagnerai, n'ayez pas peur. Et là, c'est des choses qu'on fait déjà, mais varier un petit peu. Vous savez, quand la vie est tout le temps la même chose, hein, c'est monotone, c'est triste. Mais si nous, on se mettait chacun avec ses qualités, avec ses dons, à essayer de devenir un peu créatif, moi, je suis sûr que le culte va devenir beaucoup plus intéressant. Plus vivant, en tout cas. Parce que si moi, je participe... forcément, d'un seul coup, le culte a une autre... Enfin, j'ai une autre vision du culte. Je fais quelque chose dans le culte. Alors, j'espère que vous avez des idées. Venez me voir tout à l'heure. Hein. Pas trop non plus, hein, mais quelques-unes. Mais je pense que le culte devrait de temps en temps varier, pas devenir un rituel ennuyant. Et le problème, c'est que pour ça, il faut faire beaucoup d'efforts. Changer les choses ou varier un petit peu, ça demande un peu d'imagination, ça demande un effort. Et bon, l'effort... On le fait déjà toute la semaine à travailler, donc le dimanche, je ne vais pas faire un effort de plus. Je l'ai dit, un culte, c'est participatif. Le culte est par essence, on l'a vu dans Acte 2, 42, par essence communautaire, ça concerne toute la communauté de l'Église, et corporatif. C'est un corps qui est en action, qui travaille. Là, tout le corps de Christ se réunit, adultes, enfants, personnes âgées, tout le monde est là, tout le monde vient célébrer Dieu. Et quelqu'un disait quelque chose d'extraordinaire. Les chrétiens, en venant en culte, doivent s'étonner ensemble d'être sauvés. Ça vous étonne encore d'être sauvés?
Oui.
Un peu. Toi, je sais, parce que tu me le dis tous les jours. Mais est-ce qu'on s'étonne encore d'être sauvés quand on vient au culte? Ou bon, c'est réglé depuis longtemps, c'est fait. Ah, Jésus est mort sur la croix, bon, il a fait ce qu'il avait à faire, et puis voilà. C'est comme ça qu'on le voit souvent, hein. Mais si je m'étonne d'être sauvé, ben, là aussi, peut-être que le culte va changer dans ma tête. Waouh, je méritais la croix. Je méritais, à cause de mon péché, de mourir comme Jésus a souffert. Je ne sais pas si on y pense. On n'arrive peut-être pas à bien le comprendre, mais il faudrait qu'on soit devant la croix un jour, et puis avec deux, trois coups, là, pour qu'on comprenne vraiment ce qu'on méritait à cause de notre péché. Et pourtant, Jésus a permis que l'on soit sauvé. Et c'est de ça qu'on est sauvé. Et d'une éternité loin de lui, de l'enfer, hein, comme parle la Bible. Ça vous étonne encore d'être sauvé? Ça vous réjouit d'être sauvé? Ou bon, maintenant, c'est acquis? Vous êtes content d'être sauvé?
Oui.
Un peu? Un petit peu? Beaucoup? Vous imaginez qu'on va arriver devant Dieu et qu'on va dire « Merci Seigneur parce qu'on a été sauvé ». Parce que je vois dans l'Apocalypse, quand ils sont en train d'adorer Dieu, mais c'est grandiose, c'est immense, hein, quand ils remercient pour le salut. Alors, je ne dis pas de crier, évidemment, mais c'est dans le cœur que je parle. Hein. Si dans mon cœur, c'est devenu une habitude, ben c'est bien dommage. Je suis sauvé. Quelqu'un d'autre écrivait aussi, nous devrions nous émerveiller d'être enfants de Dieu. Oh, j'ai un grand papa, un immense papa, Dieu. Et je suis son enfant. Et comme tout enfant, je suis obéissant à mon papa. N'est-ce pas? On a tendance à oublier qu'on est enfant de Dieu, donc on arrive à se dérober souvent de cette obéissance. Hein. Mais si je suis étonné d'être sauvé, si je me rends compte de ma position d'enfant de Dieu, mais alors j'ai simplement envie de dire merci, non, à Dieu. Non? Oui, c'est acquis, hein? Oui, je vois, c'est acquis. On a l'habitude maintenant d'être enfant de Dieu. On sait qu'on est sauvé, Jésus, etc. Mais ça devrait nous booster dans notre cœur. Ça devrait nous donner de la joie, tout simplement, de savoir ces choses-là. Et c'est ça qui va me pousser à adorer Dieu. Et puis le culte dépend aussi donc de moi, mais il doit me coûter aussi. Si on regarde un peu dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 16:16, il écrit « Trois fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira. À la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles, on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. » Alors ça, c'était la loi, hein, c'était la dîme, et il y avait d'autres formes pendant le culte. Mais il y a quelque chose qui est dit, on ne paraît pas devant Dieu les mains vides. Je n'ai pas les mains dans les poches à l'église ou au culte, normalement. Ça me coûte, quelque part. Pas de l'argent. On parle de personne. Si ça me coûte, ça veut dire que je viens avec quelque chose. Comme on a dit, pourquoi pas un chant, comme on a vu dans l'Apocalypse, un témoignage, une reconnaissance. Ça me coûte de me préparer. Ça me coûte peut-être de partager avec les autres. Mais ce que vous allez partager va faire du bien peut-être à un autre. Il y a beaucoup de témoignages que j'ai entendus ou quelqu'un qui avait simplement un passage à lire qui m'ont fait du bien à moi. Ce n'était pas forcément le pasteur ou le président, mais quelqu'un a partagé. Et Dieu parle comme ça les uns vis-à-vis des autres. Hein. Je ne parle pas des prophéties où on se lève et on dit « Tiens, Dieu m'a parlé que ». Ce n'est pas ça. Quand on lit un passage, c'est peut-être des fois simplement pour moi à ce moment-là. Si vous commentez derrière, pourquoi pas. Mais ça me coûte quelque chose. Parce que quand je viens en culte, je ne suis pas spectateur. Des fois, j'aimerais bien m'asseoir et vous mettre devant. On va changer un petit peu. Hein. Vous verrez que c'est fatigant pendant une heure d'être debout. Mais on n'est pas spectateur au culte. Ce n'est pas le cinéma. Ce n'est pas le théâtre. On est acteur, normalement, dans le culte. Hein. Je suis acteur du culte selon l'ordre de Dieu. Puisqu'on l'a vu dans 1 Corinthiens 14, chacun avait quelque chose à apporter. Pas qu'une personne. Et ça, c'est bien dommage. Chacun d'entre vous, vous faites partie de ce culte. Et peut-être pour dimanche prochain, j'espère que ça va cogiter dans la tête, vous allez voir le président et dire peut-être, tiens, j'ai envie de devenir acteur de ce culte. Alors, courtement, parce qu'on ne peut pas faire passer tout le monde, on est bien d'accord. Mais peut-être par une prière, par un chant qui vous tient à cœur, par un sketch, je ne sais pas, allez, pourquoi pas, un sketch qui parle, ou un mime. Moi, j'aime bien les mimes, parce que c'est souvent très expressif. Hein, quand on le fait bien, évidemment. Mais je ne viens pas au culte comme spectateur, je suis un acteur de ce culte. Donc le culte a pour objectif, selon Dieu, ben, d'abord Dieu lui-même, mais aussi un culte qui est là pour nous édifier, dans lequel je suis participant totalement. Le culte en pratique, quoi faire durant le culte ? Il n'y a pas grand-chose, en fait, dans la Bible. Hein. On peut lire dans Éphésiens 5, 19, « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » C'est peut-être là que quelques composantes de ce qu'est un culte, mais il y a de la matière déjà. Lire des psaumes ou les chanter, si vous êtes un peu artiste, hein, pourquoi pas. Partager ses hymnes, ses cantiques, l'enseignement, tout ce qu'on a vu. Toutes ces choses-là font la matière, on pourrait dire, du culte. Mais tout est fait pour l'édification du chrétien. Normalement, un culte doit pousser à la croissance spirituelle. Si je le sors simplement avec des sentiments, ce n'est pas de la croissance, ça. Peut-être si, un au moins, je dirais celui de me dire, tiens, j'ai péché ou il y a quelque chose qui n'est pas en conformité avec Dieu et j'ai envie de le changer. Oui, là, je vais vers la croissance spirituelle. Ce n'est pas de l'émotion. Il y a vraiment l'envie maintenant de me mettre en marche avec Dieu. C'est ça, normalement, le but du culte, être édifié, grandir avec le Seigneur. On est sauvé, pas pour être seulement sauvé. On parle de sanctification progressive dans notre langage de pasteur, mais ça veut dire qu'on est appelé maintenant à changer progressivement, jour après jour, pour aller tendre au maximum. C'est-à-dire, Dieu veut se débarrasser au maximum de nos péchés. On sera toujours pécheur, nous dit la Bible, mais on peut s'en débarrasser au maximum. Et celui qui se débarrasse des péchés est de plus en plus heureux, curieusement. Hein, on les aime, nos péchés. Hein. Mais on ne se rend pas compte que souvent, ils nous rendent malheureux. Mais le culte est pour l'édification du chrétien. Un culte en musique. Alors, il y aurait beaucoup de débats, je ne vais pas rentrer dans le débat ce matin. Je dirais de la musique, oui, mais majestueuse, douce et sainte comme le caractère de Dieu. Je pense qu'il y a là au moins un principe. Après, il y a chacun un peu son style, on ne va pas se battre pour ça, mais il y a un caractère quand même de Dieu qui doit transparaître dans la musique. Si je fais du hard rock le dimanche matin, pas tout à fait à l'image de Dieu. Et puis de toute façon, vous criez tellement qu'on n'entend pas les paroles. Donc c'est bien dommage. Les groupes de louanges, alors peut-être je vais m'en prendre plein la figure tout à l'heure, mais on installe de plus en plus des groupes de louanges, et puis à la finale, les gens viennent, écoutent le groupe de louanges et s'en vont. Qu'est-ce qu'ils deviennent ? Spectateurs. C'est bien dommage. Je ne suis pas contre totalement, on parlait à la pastorale la dernière fois, mais ils prennent de plus en plus la place, finalement, du culte. Ils volent la participation des gens qui devraient chanter. Alors, les gens se disent, bah, moi je ne sais pas chanter, donc je ne chante pas et j'écoute. Mais Dieu veut ma participation, pas leur participation seulement, mais ma participation. Dans Hébreux 13, 5, il est dit « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Dieu veut entendre mes lèvres confesser son nom. Pas le groupe de louanges ou le concert, je ne sais pas quoi. Dieu veut entendre mes lèvres à moi le célébrer. Et si moi, ben je construis le culte de telle façon à ce que tout le monde se tait pour que vous m'entendiez, ben finalement, on est en train de désobéir à la parole de Dieu. Je ne suis pas contre, mais il faudrait quand même que ça soit bien organisé mais pas que l'Église devienne spectatrice, hein, et surtout qu'on ne se concentre pas sur le groupe, mais qu'on se concentre sur Dieu, parce que c'est lui que je suis venu adorer. On disait avec les pasteurs, bah, ok, groupe de louanges, mais derrière. C'est bien quand des gens vous accompagnent, mais on les met derrière, comme ça, c'est toujours Dieu qu'on est en train de célébrer. Bon, on verra bien. Et en même temps, l'inverse, je dirais, gare à la liturgie, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, chaque dimanche, on répète les mêmes choses. On aime bien aller voir l'Église catholique en disant qu'ils sont très liturgiques. Et, hein, on aime bien critiquer, mais on ne se rend pas compte que nous-mêmes, des fois, ben, on refait les mêmes choses. Et si on change quelque chose, c'est grave. Si on commençait à faire la prédication à 10 heures et la présidence après, il y a beaucoup qui louperaient la moitié. Hein. Mais on changerait les habitudes. Est-ce que Dieu va nous punir pour ça? Vous n'avez pas l'air convaincu, là. Ben non, il ne va pas nous punir. Dieu n'a jamais dit présidence, trois champs, annonce, etc. Il n'a rien donné. Donc il nous laisse une certaine liberté, même s'il doit être au centre de ce culte. Hein. Mais on devient liturgique, on répète les choses. Hein, et on l'a dit, il faut un culte équilibré, varié. J'ai envie de dire un culte qu'on va rendre de plus en plus beau. Ah, un culte beau. Non ? Pensez à ça le dimanche matin, tiens, j'ai envie de rendre le culte beau. Par ma participation, ou peut-être grâce aux autres, mais on l'a dit, chacun participe. Mais est-ce que c'est le même culte que la semaine dernière? Ça serait bien dommage. Il doit être plus beau que la semaine dernière. Alors ça ne dépend pas des gens, forcément, enfin, pas du président, mais ça dépend de moi et de mon intérieur. Le culte va devenir plus beau si, moi, ma relation devient de plus en plus belle avec Dieu aussi. Forcément, c'est lié. Alors imaginez que nous venons tous dimanche prochain avec la joie du Seigneur, vraiment une relation de fou avec Dieu, hein. Vous avez cru, Dieu. Je pense que ça va changer, non? Notre façon d'adorer Dieu. Ça dépend de mon cœur. Le culte qui est conforme à Dieu, c'est un culte trinitaire, on a envie de dire. Alors, c'est des mots un peu compliqués, peut-être, mais je vais expliquer. On parle souvent d'un culte théocentrique ou christocentrique. Théo, c'est Dieu. C'est Dieu au centre. Christocentrique, c'est Christ au centre. Ce qui est le centre du culte, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu, tout simplement, qu'on vient adorer. Il est évidemment dirigé par le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit peut travailler dans notre vie à condition qu'on s'y soumette et qu'on lui obéit, évidemment. Hein, sinon, il ne peut pas travailler. Donc si pendant le culte, il me travaille, veut me changer, ben, laissons le faire, et forcément, il va y avoir des progrès. Hein. Souvent, on cherche des grandes manifestations du Saint-Esprit par des miracles ou je ne sais pas quoi. Ben, quand il change déjà une personne, ou quand quelqu'un naît de nouveau ou se convertit, waouh, quel miracle, hein. Moi, je m'en fiche des grands miracles. Quand quelqu'un se convertit, c'est le plus grand des miracles. Même dans le ciel, les anges sont étonnés et chantent. C'est dire. Hein? Alors, je crois que Dieu fait des miracles, évidemment, mais peut-être pas de la manière dont les gens le font aujourd'hui. Mais bon, c'est un autre sujet. Il y a aussi une diversité dans l'unité. Moi, ce que je trouve formidable dans le culte, hein, c'est qu'on a tous des cultures différentes, on a des personnalités différentes. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui vient de Tahiti. Oh, j'aimerais bien aller là-bas un jour, mais bon, on va le dire. Hein. Et on est content de l'accueillir. Et toute cette diversité, ben ça peut être créatif, justement. Hein, on est tous différents, on a tous une autre culture. Alors, des fois, c'est vrai que ça peut être un problème, mais en fait, chacun va apporter sa pierre avec sa manière d'être. Alors, tant que ça reste biblique, on est bien d'accord. Mais ça fait un beau tableau, finalement, non? Ça met du soleil, là. C'est beau, en fait. Tous ont un rôle dans ce culte, et la question que je vous pose, et que vous devriez vous poser tout à l'heure en partant, mais comment je peux être actif dans ce culte? Qu'est-ce que je peux faire, moi, maintenant? Et je vais vous pousser de plus en plus, hein. Ce n'est pas que je veux forcer les gens, mais j'aimerais que vous vous sentiez à l'aise dans le culte, que vous vous sentiez acteur de ce culte. C'est votre culte et vous avez le droit d'y participer. Un culte ordonné et joyeux. Alors, j'ai mis trois petits points de suspension sur ma feuille parce que ordonné, discipline, là, 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 et joyeux, c'est possible. Est-ce qu'on peut être ordonné et joyeux? Ben oui, d'ailleurs, on ne peut pas être joyeux si on n'est pas ordonné. Quand c'est le grand bazar, généralement, quand notre vie est en décomposition, on n'est pas heureux. Et puis quand on regarde Dieu, enfin, je pense que Dieu est un Dieu d'ordre, ça la Bible dit, je pense qu'il est joyeux aussi, parce qu'il n'a pas de péché, déjà. Donc les deux sont liés, il y a de la joie dans l'ordre, tout simplement. Hein. Comme Dieu est un Dieu d'ordre et un Dieu joyeux, les deux ne sont pas incompatibles. C'est un culte qui n'est ni monotone, ni exagéré. Il ne s'agit pas de venir à l'église... mais non plus pas de sauter dans tous les sens ou de tomber à la renverse, comme je vois aujourd'hui. Il est joyeux comme ma compréhension de la grâce. Ah. Si il faut l'évaluer, je serai heureux comme j'ai compris la grâce qui m'a été faite. Si je n'ai pas compris, je suis heureux. On est souvent comme ça. Qu'est-ce que je suis heureux ? Parce que j'ai pas compris la grâce. Mais si j'ai vraiment compris la grâce, alors je sais pas faire, parce que moi je sais pas rigoler. Alors. Quelqu'un le fera peut-être, mais on a un sourire au moins sur le visage. Et Dieu m'a sauvé, et j'ai envie de lui dire merci aujourd'hui en venant au culte. Hein. Et ça me rend joyeux. Quelqu'un écrivait, si le culte cherche à adorer le Dieu qui sauve par la grâce seule, les chrétiens seront édifiés et les non-chrétiens interpellés. Si c'est cette grâce qui est au centre du culte et ce que Dieu a pu faire et fait encore pour des gens, alors le culte devient joyeux, mais en plus ça a un impact sur les gens. Vous savez, quand un non-converti vient dans une église et que toute l'église fait la tronche, excusez-moi de le dire comme ça, mais il se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi ? Rien. Par contre, si on voit que l'église est dans la joie parce qu'elle a envie d'adorer Dieu, il dit, ah, il y a quand même quelque chose que moi je n'ai pas, j'ai besoin. Forcément, ça fera une différence. Et puis le culte, c'est pas le dimanche matin parce qu'il va se poursuivre tout à l'heure dans la semaine. Oh. Je ne vais pas chez vous pour prêcher, hein, je vous rassure. Mais le culte se poursuit en semaine, il ne s'arrête pas le dimanche. Vous savez, quand on regarde dans l'Ancien Testament, les Juifs préparaient le sabbat le vendredi soir, 3 jours avant. Hein, ils étaient déjà en train de se préparer à célébrer ce culte. Alors, on ne va pas suivre la loi parce qu'on n'est plus sous la loi, mais l'idée est là que le culte se prépare dans la semaine et se poursuit aussi dans la semaine. Hein. Les chrétiens devraient comprendre cette responsabilité qu'ils ont là de préparer le culte dans la semaine. Romains 12, 1 dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Pas parfait, mais raisonnable. Il y a donc l'idée qu'on est déjà en train de préparer le culte dans notre vie quotidienne. D'abord parce qu'on veut offrir notre vie à Jésus-Christ comme un sacrifice. Alors, un sacrifice parce que des fois, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Forcément, il y a un sacrifice. Mais en même temps, c'est une espèce de culte que je suis en train de rendre à Dieu durant toute la semaine. On a dit adorer, c'est exactement ça. J'adore Dieu. Hein, j'adore Dieu par mon comportement. Et en même temps, si je me préparais comme cela, le culte ne sera pas trop improvisé le dimanche matin ou peut-être trop organisé. Mais est-ce qu'on se prépare vraiment la veille ? Pas souvent, on arrive le dimanche matin et on demande quelqu'un un chant. Et... Pourquoi ? Parce que je n'ai pas pensé, tiens, il y a le culte demain matin. Je peux m'arrêter de regarder la télé, une minute quand même, et peut-être voir un cantique, et tiens, celui-là, il me parle, et j'aimerais bien le présenter demain. Ou alors, juste dans ma lecture biblique de la semaine, tiens, je vais le mettre de côté, ça, j'ai envie de le partager avec les frères et les sœurs. C'est possible ? Tout est possible à celui qui croit, normalement. Donc, je me prépare, alors la veille, ou peut-être même dans la semaine, mais il faut que je m'arrête à un moment dans la semaine, me dise, tiens, on m'a dit que je suis acteur de ce culte, alors qu'est-ce que je peux apporter ? Ce ne sera pas toutes les semaines, parce qu'on ne pourra pas le faire pour tout le monde. Mais au moins me préparer et me dire, tiens, demain, il y a eu culte. Pas courir comme un malade dans tous les sens le dimanche matin, dire, ah oui, il y a le culte. C'est la veille qui se prépare. Pourquoi pas prier, hein ? Je me souviens, sur Arles, on prenait le temps de prier souvent pour le culte le lendemain. Ça se prépare. Et qui sait, si on prie davantage pour ce culte, il y aura peut-être plus de gens qui vont venir. Ou rester. Tout le monde n'est pas là ce matin, on serait beaucoup plus nombreux, mais moi j'aimerais bien que ça grandisse cette église. Mais ça se prépare aussi la veille. Moi je prie tous les matins, si vous voulez, vers 9h ici. Si vous voulez me rejoindre, il n'y a aucun problème, parce que j'ai envie que cette église grandisse. Je vous invite, hein, c'est peut-être votre travail à faire. Mais ça se prépare, et si ça se prépare, ça me rappelle que j'ai un engagement personnel aussi dans le culte. Le culte ne dépend pas du président ni du pasteur, il dépendra maintenant désormais de moi, de ce que je ferai par mon témoignage ou par une chose ou une autre. C'est important de s'en souvenir. La pratique du culte a donc des exigences divines, comme je l'ai dit dans le titre, pour dimanche, mais aussi pour toute la semaine. Nous avons un culte toute la semaine. La seule différence, c'est qu'on va se réunir tout ce dimanche matin pour partager ensemble ce que Dieu a fait pour nous dans la semaine. Formidable, non ? C'est une belle idée que Dieu a eue, hein ? Parce qu'on était chacun dans notre coin, ça aurait été un peu triste, mais de vivre en tant que chrétien. Et pour s'exhorter les uns les autres, c'est encore plus compliqué. Pour terminer, donc, le culte est biblique, enfin, un culte biblique est soumis aux exigences de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que je vais inventer, réinventer, imaginer avec mes sentiments, avec ma manière de faire. C'est quelque chose que dont Dieu a des exigences. Et pourquoi ? C'est lui qu'on vient célébrer. Donc, c'est lui qui a le droit de me dire quelque chose sur ce qu'est le culte et la manière de le faire. On l'a dit, le culte est participatif. J'ai un rôle à jouer. Et évidemment, ça dépendra de ma relation avec Dieu. Ce rôle va devenir vivant si j'ai une vraie relation avec Dieu. Je vous encourage à ouvrir votre Bible régulièrement à prendre un temps de prière avec le Seigneur, ça fait beaucoup de bien, à ce qui paraît. Et en même temps, cette relation avec Dieu va devenir vivante, réelle, et ça aura forcément un impact sur cette vie d'Église. Souvent, on aime critiquer le culte. Hein. Oh, c'était nul, c'est pas, ça bouge pas assez, c'est pas, etc. Mais jamais on se dit, tiens, si je m'arrêtais de critiquer, et si je me mettais comme acteur de ce culte, pour le rendre plus beau, comme j'ai dit tout à l'heure, pour le rendre vivant. Hein. On perd plus de temps à dire des choses négatives, plutôt qu'à changer nous-mêmes d'abord, et ensuite à aller vers, pourquoi pas le pasteur ou le président, et à dire, tiens, j'ai envie d'apporter quelque chose. Comme ça, on pourra vous critiquer, vous, après. Non, je rigole. Mais c'est vrai, on est souvent dans la négation, alors qu'on... Dieu voudrait simplement qu'on arrête d'être négatif. Il y a des solutions, il y a des manières de faire. Arrêtons d'être négatif. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas d'aller voir le conseil. Hein, on en parlera. Moi, je suis très ouvert, hein, à condition, évidemment, qu'on reste concentré sur la parole de Dieu et qu'on ne se mette pas à avancer dans tous les sens. Hein, on est bien d'accord. Imaginez que nous pouvons réjouir Dieu par nos chants de prière. Chaque dimanche, quand nous chantons un peu habituellement, en fait, Dieu nous écoute. Vous avez déjà pensé à ça ? Et qu'est-ce que Dieu pense à ce moment-là ? Alors, je ne vais pas vous dire ce qu'il pense. En tout cas, il est heureux quand on chante. Alors, j'imagine quand on chante monotone, bon, Dieu agrée parce qu'il nous connaît, on est faible. Mais s'il y avait vraiment une vraie joie, je ne dis pas de sauter dans tous les sens, une joie dans le cœur, que ce que je chante est vrai dans ma vie. Hein, parce que souvent, on chante des chants et on ne lit même plus les paroles. Si on les lisait vraiment, hein, « Te ressemblait Jésus », par exemple, des fois, j'hésite à le chanter quand même. Hein. Mais si dans mon cœur, il y a cette joie, alors je vais réjouir Dieu. Et moi, j'ai envie de réjouir Dieu. Je ne suis pas parfait, hein, comme tout le monde. Mais mon but en venant au culte, c'est que Dieu soit content de la louange, de l'adoration qu'on lui a amenée par nos chants, par nos prières. Finalement, avec tout ça, si on met toutes ces choses en place, dans ma vie, peut-être dans l'Église aussi, ben finalement, ce culte deviendra une vraie joie pour nous. Et chaque dimanche, on va venir... Je suis pressé de venir au culte. C'est tellement important pour moi. J'ai tellement envie d'être avec les frères et les sœurs. J'ai tellement envie d'adorer Dieu. C'est comme ça qu'on vient au culte ? Je suis en retard. Si on pouvait changer notre attitude par rapport au culte et notre façon de venir au culte, ça changera absolument tout dans notre vie. Que le Seigneur nous aide, et autant dans notre vie personnelle, mais peut-être dans cette église-là, améliorer ce culte pour que d'autres se joignent à nous et se réjouissent comme le Seigneur. On va prier. Seigneur, merci pour l'idée formidable de l'Église d'abord, le corps de Christ, qui permet que, où que l'on soit sur la terre, nous pouvons nous réunir en Église locale, où nous pouvons nous réunir le dimanche et peut-être même dans la semaine, mais surtout le dimanche pour venir t'adorer, Seigneur, venir reconnaître ta personne, reconnaître ta grandeur, ta majesté, ta sainteté. Merci parce que tu es avec nous toute la semaine et le dimanche, c'est l'occasion tout simplement de te dire merci. Pour les bienfaits, pour les épreuves que tu nous apportes, les changements dans nos vies, les bienfaits matériels, le travail, toutes ces choses, Seigneur, que tu nous donnes, et bien souvent nous oublions de te dire merci. Apprends-nous à nous concentrer sur ce culte et particulièrement sur ta personne, mais apprends-nous aussi à nous préparer dans la semaine, Seigneur, d'abord dans notre relation avec toi, qu'elle soit plus intense, plus vivante, plus réelle, et dans cette lecture de ta parole, dans cette vie de prière. Et que chacun d'entre nous puissions nous rendre compte que finalement nous sommes des acteurs de ce culte et nous préparer tout simplement durant la semaine à participer à ce culte que nous voulons t'apporter. Nous sommes que des hommes, Seigneur, nous sommes imparfaits et pardon si nous ne faisons pas toujours comme tu le mérites. Mais Seigneur, tu veux aussi nous changer et donc nous pouvons aussi nous améliorer. Et c'est ce que tu vas faire avec chacun d'entre nous. Nous voulons faire cela non pas pour notre gloriole, pour nos sentiments, mais simplement pour ta gloire et pour ta personne parce que tu es le seul qui mérite. En Jésus-Christ. Amen.